Alléluia. Est-ce qu'il y a de la joie d'être dans la présence du Seigneur ?
Amen. On est heureux d'être là dans sa maison, heureux d'être là dans sa présence. On est heureux tout simplement parce que là où deux ou trois sont réunis, Dieu a fait cette promesse dans sa parole : je demeure au milieu. Et il n'y a pas plus grande joie que de demeurer dans la présence du Seigneur. C'est là où il guérit, c'est là où il sauve, c'est là où il libère, c'est là où tout ce qui était mort reprend vie. Merci Luc. J'ai oublié de resserrer après. Alléluia. En préparant ces instants, en pensant à vous, j'avais cette thématique à cœur, vie nouvelle et bornes anciennes. Souvent, on va opposer ce qui est nouveau de ce qui est ancien. On va aussi, à tort, opposer les générations, les anciens et les jeunes. On va, à tort, penser qu'on peut tout réinventer. Et aussi dans l'autre sens, croire que rien n'est nouveau. Mais je crois que Dieu n'est pas dans ces considérations-là. Dieu, je crois, est appelé l'Éternel. Amen. Il n'y a ni lui, ni les choses anciennes, ni les choses nouvelles. Il est. Il est au présent. Et le cœur de ce message est vraiment, j'avais un peu comme si Dieu me poussait à vous dire cela. Dieu m'invite à prêcher la vie. Et j'aimerais que la vie soit là dans les cœurs, au milieu de ces instants. Que la parole de Dieu puisse pénétrer les cœurs. Peut-être certains sont comme morts, asséchés, fatigués. Et c'est le Dieu de la vie que nous invoquons. Le Dieu de ce présent. Le Dieu qui connaît ton présent, qui connaît aussi ton avenir. Il sait d'où tu viens, mais c'est aujourd'hui qu'il veut agir. C'est le Dieu du aujourd'hui, le Dieu du maintenant. Et en attendant ces instants, Dieu me disait, mais prêche la vie, prêche la vie. Et j'ai vraiment à cœur de prêcher cette vie en Jésus, cette vie extraordinaire lorsqu'on a rencontré ce Sauveur merveilleux, de celui qui sait ce dont et connaît ce dont nous avons besoin, ce Dieu qui sait là où il doit nous amener, ce Dieu qui nous connaît parfaitement. Et vous savez quoi? Ça ne le décourage même pas. Véridique. Moi, je me dis, Dieu, il me connaît par cœur. Il connaît le fond de mon cœur et ça ne le décourage même pas de se servir de moi. Je dis, Seigneur, tes plans ne sont pas les miens. Qui aurait misé sur un bougre comme moi? Seigneur, lui, il a dit, on va essayer. Dans ce Dieu de la vie, peut-être certains ce matin aspirent à un redémarrage. Une page qui se tourne. Vous savez, un jour dans la rue, un gars qui ne voulait pas entendre parler de Jésus, une parole l'a bouleversé. Lorsque je lui ai dit, mais est-ce que tu n'aspires pas à un redémarrage de ta vie? Et là, les larmes ont commencé à couler. Je ne connaissais absolument rien de sa vie, mais c'est exactement ce dont il avait besoin. Je dis, mais cherche pas ailleurs. En Jésus-Christ, tout est possible. Celui qui nous donne cette vie nouvelle. Un certain religieux appelé Nicodème était venu chercher Jésus de nuit en disant, mais comment on fait pour être né de nouveau? Comment on fait pour être sûr d'être sauvé? Et Jésus va dire, il faut naître de nouveau. Et de manière très, très terre à terre, il va croire qu'il fallait remonter dans l'utérus de sa maman. Non, 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 non. Il n'y a pas de ces choses-là en Jésus-Christ. Toutes choses sont nouvelles en Dieu. Dieu, avec Dieu, tout est nouveau. Ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Pas une créature qui deviendra nouvelle. Il est une nouvelle créature. Alléluia. Est-ce que tu le crois, mon frère, ma sœur? Est-ce que c'est toujours d'actualité après tes 40 ans, 50 ans de vie avec Jésus-Christ? Est-ce que tu réalises que qu'importe le temps qui passe, ou même si tout est nouveau pour toi aujourd'hui, et tu découvres la foi, tu dis, mais il parle d'un nouveau départ, moi j'en veux. Oui, avec Jésus, c'est à chaque jour un nouveau départ. Parce que lorsque nous chutons, il nous relève. Tant que nous sommes là à dépendre de lui, il nous prête force. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit qu'il renouvelle nos forces pendant la marche. Ce n'est pas pour rien qu'il veut disposer dans nos cœurs un esprit bien disposé, qu'il veut renouveler notre intelligence. Et je pourrais vous citer des dizaines et des dizaines d'autres versets, nous parlant de ce renouveau que Dieu souhaite pour ceux qui aspirent en ce Sauveur et ce Maître. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviendront nouvelles après avoir prié, fait des jeûnes et prières et après avoir brisé des liens d'hérédité. Non, on va mettre dans la poubelle toutes ces mauvaises doctrines et on va parler de la parole de Dieu qui a autorité sur toutes les puissances démoniaques, sur tous les liens d'hérédité que certains mensonges du diable auraient la peau dure dans ta vie. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es né de nouveau si tu es en Christ. Si tu n'es pas passé par la repentance, c'est une autre question. Mais celui qui est passé par la repentance, celui qui a accepté Jésus comme sauveur et comme maître, il est une nouvelle création. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Ésaïe 43, Dieu nous dit dans l'Ancien Testament, ne pensez plus au passé. On va parler des pensées, de ce qui se passe dans le secret de nos têtes, qu'on souhaiterait que personne ne voie, pour la santé mentale de tous. Mais Dieu dit, je sais ce qui se passe dans vos têtes. Oui, aïe, aïe, c'est catastrophique. Alors arrêtez, ne pensez plus au passé. Ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous, car je vais faire du nouveau. J'ai pris une autre version pour qu'on arrête d'être installé dans des traductions et on les lit et on les passe comme ça. Mais j'aimerais qu'on puisse être interpellé sur le choix des mots de Dieu. Car je vais faire du nouveau. On le voit déjà paraître comme un bourgeon au printemps. Vous avez vu tous les arbres fruitiers en ce moment ? J'espère qu'il n'y aura pas trop de gelée derrière, mais tout est déjà en train de bourgeonner, fleurir. Et on sait que la nouvelle saison arrive. On le voit déjà paraître comme un bourgeon. Vous saurez bien le reconnaître. Aurez-vous l'intelligence spirituelle d'ouvrir les yeux sur le renouveau qu'il promet ? C'est là l'interpellation que Jésus nous fait ce matin. Je suis le Dieu du présent. Je suis le Dieu qui crée la vie là où tout est mort. Là où il y a eu une vallée des ossements desséchés, le prophète a dû prophétiser. Et une armée s'est levée pour servir le Seigneur. Là où on considère qu'il y a des impasses, des choses mortes, Dieu dit, mais reconnais mon œuvre à moi, pas tes fruits à toi qui sont perfectibles, non pas ta fidélité qui est vacillante, non pas ta piété qui parfois est aux abonnés absentes, mais considère ce que moi je suis capable de faire. Et Dieu voudrait nous interpeller ce matin. Je vais faire quelque chose de nouveau. Est-ce que tu vas le reconnaître? Est-ce que tes yeux sont ouverts? Ton cœur est disposé? Oui, dans le désert, j'ouvrirai un chemin. Peut-être quelqu'un ce matin attend un itinéraire du Seigneur. Cherche Dieu d'abord, il te trace l'itinéraire après. Dans les lieux arides, dans les lieux de la solitude, dans les lieux où rien ne pousse, là où peut-être ta vie est stérile, là où tu te considères comme inutile pour le Seigneur et que même de tes frères et sœurs, tu as l'impression d'être un inconnu, Dieu dit « Mais hé !» Moi, je fais jaillir un fleuve. Dieu n'a pas dit des gouttes d'eau dans le désert. Il n'a pas dit un filet d'eau. Non, non, un fleuve. On sait ce qui se passe quand il y a le fleuve. Quand le fleuve sort de son lit, quand le fleuve passe, tout est arraché, mais aussi tout prend vie à côté. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. On le chante récemment et pour certains, on l'a appris à écho. Avec Dieu, tout est nouveau. Allez, il y en a qui reconnaissent, c'est bon. Dieu, je crois, est capable de renouveler les forces pendant la marche. Dieu est capable et Dieu veut nous donner une intelligence nouvelle pour discerner sa volonté, celle qui est bonne, agréable et parfaite. Dieu veut, Dieu veut, Dieu veut, Dieu veut. Mais est-ce que toi, tu le veux ? Parce que Dieu n'enfonce pas les portes fermées. Apocalypse 3:20, il frappe à la porte. Il fait entendre sa voix. Et ce matin, Dieu voudrait que ton cœur soit disposé, ouvert, pour que la voix de Dieu puisse faire écho dans ton cœur. Parce qu'il ne fera pas à ta place. Il veut, c'est vrai, il le désire, mettre un cœur nouveau, changer les cœurs de pierre en cœurs de chair, gloire à Dieu. La volonté de Dieu, elle est trop belle, elle est trop bonne et elle est parfaite. Mais à force de parler de nouveauté, de renouveau, on a l'impression qu'il faut ne plus penser et arracher le passé. Comme si, en fait, il fallait réinventer la parole de Dieu. Et à force de chercher le renouveau, la vie, certains ont oublié sur quoi était fondée la vie. C'est pour ça que Dieu dit dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 19, verset 14, il dit « Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain, posées par tes ancêtres, dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession. » tu ne déplaceras pas les bornes anciennes. Il y a des choses que Dieu a instaurées, qu'il a transmises à des hommes pour que ça se transmette de génération en génération. Et si ces choses-là sont bien en place, alors le Dieu de la vie, il a le boulevard tracé pour donner la vie là où tout est mort. Mais parfois, avec la recherche de nouveautés, on va opposer les générations. C'est dommage, parce que Dieu est éternel. C'est pas le Dieu d'une génération, c'est le Dieu de toutes les générations. À force de chercher la nouveauté, on tombe dans la recherche du modernisme et on est dans la recherche de la dernière vague tendance, le prédicateur tendance, la doctrine tendance. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu est éternel. Ce qu'il a dit dans le passé est toujours valable aujourd'hui. Et on va parler de 4 bornes. Je me suis arrêté à 4 bornes parce que pour délimiter un terrain, il faut 4 bornes. On va dire dans une parcelle bien faite, hein, une parcelle triangulaire, je vous la laisse l'acheter. Vous vous débrouillez avec votre argent. Mais on va parler de ces 4 bornes essentielles pour la croissance du chrétien. Pour que tout puisse être nouveau jour après jour. Afin que, comme le dit la parole, tout ce qui est deuil soit changé en cri d'allégresse. Alléluia, il y a tellement de promesses dans la parole de Dieu. Et nous bornons Dieu dans si peu de parcelles, alors que Dieu nous a donné un territoire en possession. Mais parce que Dieu sait qu'à l'intérieur de ce territoire, nous sommes libres. Il veut aussi nous apprendre à être libres dans ce que Dieu nous a donné. Et pas essayer à la Samson d'aller voir à la frontière. S'il n'y aurait pas une jolie petite ou un territoire à étendre. Mais Dieu nous a donné un terrain, et ce terrain, c'est le terrain de la parole de Dieu. Un terrain fertile, là où tout a été donné, là où tout est né, est suffisant, il n'y a pas besoin d'aller ailleurs que de la parole de Dieu. Il n'y a pas besoin de chercher une tendance, pas besoin de chercher une aspiration, une mode. Non, le Seigneur est éternel, et sa parole de Dieu est immuable. Elle est cette épée à double tranchant. Elle est aussi ce marteau. Et il y a des idées préconçues qui ont besoin d'être brisées sur ce qui est nouveau en Dieu. Nous avons lu ensemble que les choses anciennes sont passées. Et Dieu nous rend participants en disant, mais ne pensez plus au passé. C'est-à-dire que Dieu fait les choses nouvelles. Il nous renouvelle chaque jour. Il veut nous renouveler dans le Saint-Esprit. Il veut nous renouveler tout cela. Mais souvent, nous restons bloqués dans nos pensées. Voilà pourquoi, dans ce premier axe de la parole, j'aimerais nous rappeler qu'il y a d'heureuses conséquences à la vie nouvelle. En Christ, il y a de belles conséquences. Est-ce que vous voulez les découvrir avec moi? J'en ai listé 3, mais ces 3, on pourrait dire tellement d'autres choses. La première des choses, pour celui qui est en Christ, celui qui est né de nouveau, le passé est passé. Est-ce que tu le crois, mon frère, ma sœur? Où est-ce que l'ennemi arrive à avoir accès à ta conscience pour te culpabiliser? Ce n'est pas de Dieu. Le Saint-Esprit, lui, nous reprend pour nous amener à salut. Alléluia. Mais quand la culpabilité vient nous rappeler nos fautes passées, ça vient de l'ennemi et de notre chair. Et là même, je dirais, l'ennemi, il n'a rien besoin de faire parce que notre chair, elle réfléchit tellement vite. Et on pense. Mais est-ce que nous savons qu'en Christ, les choses anciennes sont passées? Alors peut-être vous dites, ouais, mais en concret, ça consiste en quoi? Quand je regarde à Michée chapitre 7, le prophète dit, mais quel est le Dieu semblable à toi? Qui efface les fautes, qui pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient. Toi, tu n'entretiens pas ta colère à jamais, mais tu prends ton plaisir à faire grâce. Alléluia. Oui, de nouveau, tu auras compassion de nous. Tu piétineras nos fautes, nos péchés, et au fond de la mer, tu jetteras toutes nos fautes. Imaginez, quand Dieu fait grâce, quand Dieu pardonne, quand Dieu nous fait naître de nouveau, il a volontairement piétiné nos fautes. La tête du serpent ancien a été foulée à la croix. Il a perdu, le péché est démis, la mort n'a plus d'emprise sur nous. Tout à l'heure, Luc vous faisait répéter cette prise de conscience que le Saint-Esprit était en nous en tant que temple du Saint-Esprit. Alléluia. Mais vous savez que ce n'est pas n'importe quel esprit qui nous anime. C'est l'esprit qui ressuscite à Christ. L'esprit qui ressuscite à Christ, il habite en moi. Celui dont on dit la mort ne pouvait le retenir. La puissance du péché n'a pu le retenir captif dans le séjour des morts. Il est allé dire, mort, où est ta victoire ? Christ est ressuscité. As-tu cet esprit ? As-tu reçu le Saint-Esprit lorsque tu as cru ? Cet esprit qui te fait réaliser que la parole de Dieu m'amène à vivre en nouveauté de vie, non plus avec les yeux dans le passé de mes fautes et de mon péché, parce que Dieu lui-même a volontairement piétiné mon péché. Il a caché au fond de l'abîme de l'océan les fautes au point de l'avoir oublié. Alors pourquoi nous rappelons-nous les fautes les uns aux autres parfois ? Par indélicatesse. Pourquoi savons-nous si facilement dire « je te pardonne mais j'oublie pas » ? Pourquoi lorsque nous pardonnons, nous ne sommes pas prompts à la réconciliation ? Si l'Esprit qui est en nous, c'est le même qui ressuscite à Christ. Je nous pose ces questions et je me les applique d'abord à moi. Moi, prédicateur. En disant, mais ce que tu prêches, est-ce que tu le vis ? Ce que tu lis, est-ce que tu l'appliques ? Parce que je crois que Jésus a dit une chose que je préfère. Qu'au lieu de dire, Seigneur, Seigneur, vous appliquiez ma parole et mes commandements. Est-ce qu'il y a des gens nés de nouveau ce matin ? Alléluia. Il y en a qui déclare, moi je suis né de nouveau. Alléluia, qui vivent en nouveauté de vie. Parce que ce qui est sûr, c'est que pour Dieu, les fautes passées, elles sont oubliées. Et Dieu, il efface, Dieu, il terrasse, il piétine nos péchés, il enfouit, il cache au fond de la mer toutes nos fautes. La deuxième conséquence qui est extraordinaire quand on vit dans la nouveauté de Dieu, dans cette vie nouvelle, c'est que la religiosité devient stérile. On ne se cache plus derrière « il faut que » et « il n'y a qu'à faire ». On ne se cache plus derrière « je dois lire ma Bible mes 10 minutes journalières, sinon, aïe, 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 le courroux de Dieu va s'abattre sur ma vie. Je ne cherche pas à gagner la faveur de Dieu par les œuvres. J'aime tellement mon Dieu, j'aime tellement sa présence que je cours m'y jeter corps et âme. Je suis passionné, et on parlait de cela avec la jeunesse hier soir. On court. Parce qu'un feu anime nos cœurs. Nous courons, un feu anime, il réchauffe mon cœur froid et parfois réservé pour aller courir dans la présence de Dieu. Parce qu'on a faim et soif de Christ, de le connaître plus. Et nous l'avons chanté, nous voulons plus de toi. Vous savez comment on dit, comment on traduit cela ? Nous voulons plus de toi. C'est en le laissant prendre toute la place et en diminuant. C'est la prière de Jean-Baptiste. Qu'il croisse et que je diminue. On ne pourra pas laisser à cette place volontairement par nos œuvres mortes, stériles et religieuses, en disant « Tu as vu ma piété, Seigneur, prends toute la place. » Spirituellement, ça ne marche pas ainsi. Nous devons laisser le Saint-Esprit prendre toute sa place et c'est lui qui nous assure de diminuer. La chair, normalement, est crucifiée avec Christ. Et par le baptême, par cet acte que vous avez fait, cette immersion et cette sortie de l'eau, vous êtes ressuscité avec Christ. Les œuvres mortes, elles le sont vraiment. Ne disons pas comme ces amis qui ont, en voulant essayer d'encourager le pasteur lors de leur baptême, disant « Pasteur, immergez-moi bien, parce que vous savez, dans ma famille, la chair, elle sait nager. » Non. Que ce ne soit pas une fausse blague pour se cacher derrière des œuvres secrètes et pernicieuses. Qui nous amène à vivre dans le compromis tout en craignant Dieu. La religiosité est terrassée, elle est stérile. Galates 5, verset 1, Paul dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. » L'esclavage, moi je veux être esclave de Dieu, vous savez. C'est comme ça que je connais la véritable liberté. Par contre, je peux être esclave de mes habitudes. Esclave de mes coutumes, esclave de mauvais maîtres, esclave d'un homme, esclave d'un charisme, d'une influence, au lieu d'être esclave de Dieu qui nous rend réellement libres. Nous pouvons être esclaves d'habitudes, nous pouvons être esclaves d'une culture, une culture d'église, une culture familiale, une culture ethnique, tout cet impact-là nous amène à vivre dans la religiosité. Mais si je suis né de nouveau, ma culture, elle est dans le ciel. Mon origine, elle est céleste. Mon passeport, il est estampillé, le ciel. Alléluia. Est-ce que votre passeport est affranchi? Il est pas périmé, ça va. Sinon, vous ne pourrez pas monter dans le ciel. Jésus revient. Est-ce que nos passeports sont prêts? Est-ce que notre identité, comme nous l'avons chantée, elle est placée en Christ? Alléluia. La troisième heureuse conséquence quand on est né de nouveau. Et c'est là où je vais vraiment aller peut-être dans le fond des choses. C'est que nos pensées, elles sont régénérées. Vous savez, ces pensées qui nous amènent à la comparaison, qui nous amènent à raisonner, à mettre Dieu dans une boîte à chaussures. Dans Dieu, de toute façon, tu agis comme ça. Ces raisonnements qui nous amènent à nous empêcher d'aller plus loin avec Dieu. Ces pensées qui viennent nous traverser l'esprit, qui viennent nous souiller notre esprit, qui nous amènent à consommer le péché. Ces pensées qui nous amènent à nous isoler. Ces pensées qui viennent à nous dévaluer en disant, de toute façon, je suis qu'un bon à rien. Et à force de le répéter, ça devient une vérité, mais pas celle de Dieu. La vérité, c'est que nous sommes appelés dans la Bible fils et filles du Dieu très haut. Nous sommes justifiés, affranchis. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. Est-ce que nous réalisons cela? On est concitoyens des cieux. On est cohéritiers avec Christ. Est-ce que nous réalisons ce que la parole de Dieu dit sur nous lorsque nous sommes en Christ et nés de nouveau? Lorsque nous vivons de cette vie nouvelle, nous avons certes les pieds sur terre, mais je veux avoir la tête dans les nuages. Je veux penser à mon Dieu, à cette éternité qui sera mienne quand mes yeux verront sa face. Parce que notre éternité, on ne va pas la passer là, mais dans sa présence. Nous louerons le Seigneur pour l'éternité. Peut-être qu'au bout de 100 ans, ça fera long, mais ce sera pour l'éternité. Si vous en avez du mal à louer Dieu pendant 30 minutes, imaginez. Si on s'entraînait sur la terre. 1 Pierre 1, je lis que nous avons été libérés de la manière futile de vivre que nous ont transmise nos ancêtres. Et Pierre rappelle, et vous savez à quel prix. Nous disons de Jésus qu'il est notre sauveur. Nous disons dans nos prières pleins de zèle, Jésus, tu es Seigneur. Amen. Vous le dites comme... Ça va, je ne suis pas le seul à le dire. Hein. Ok. Mais est-ce que nous réalisons ce que ça veut dire que Jésus est Seigneur? Sauveur, on comprend. Hein. On est né de nouveau. Le péché est passé. Ah, gloire à Dieu, c'est trop bien. Jésus, tu es mon sauveur. Ouais, mais on dit Seigneur. Ah. C'est-à-dire que c'est toi qui as l'autorité. Ah. C'est toi qui dois régner. C'est-à-dire que c'est toi qui décides. C'est-à-dire que ce que tu dis doit avoir plus de valeur que ce que je pense. Ah, ça commence à... On se sent à l'étroit, là, un petit peu, hein, vous et moi. Et pourtant, c'est là la véritable liberté pour l'homme, pour la femme. Vous avez été libérés de la vaine manière de vivre. Et dans les vaines manières de vivre, il y a toutes ces pensées. Toutes ces pensées qui nous amènent à désobéir à Christ. Tous ces raisonnements qui nous empêchent de connaître Dieu plus. Et on le lit dans 2 Corinthiens 10, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. » Et là, Paul, il se fâche. Paul, il prend position. Paul, il place ses pieds sur le rocher. Il est né de nouveau et il en a marre d'être victime de ses pensées et de ses raisonnements. Il en a marre de voir ses frères et ses sœurs tomber à cause des raisonnements et à cause des pensées qui amènent à la désobéissance. Et il dit, nous renversons les faux raisonnements. Nous renversons, pas nous essaierons de détricoter. Non, c'est Jéricho, au moment où on proclame, les murailles tombent, l'ennemi a perdu. Dans la version de votre Bible, certainement vous lisez que ça... Il y a les forteresses qui tombent, celles qui nous empêchent de connaître Dieu. Parce qu'il y a des raisonnements comme des murs qui nous séparent de la connaissance de Dieu. Et Dieu, il veut pouvoir nous appeler ses amis. Il veut pouvoir, comme Moïse dans Exode 33, pouvoir parler avec nous comme un homme parle avec son ami. Imaginez le degré d'intimité. Je veux être appelé ami de Dieu. C'est l'objectif de ma vie sur la terre. Je ne veux pas parce que je vais le gagner cette grâce, mais parce que j'ai tout par grâce. Alléluia. Mais je veux avoir cette intimité-là. Et tout ce que je peux pointer du doigt, tout ce que le Saint-Esprit va pointer du doigt, qui pourrait m'empêcher d'être appelé ami de Dieu, je veux proclamer, je renverse ces forteresses. Ça suffit. C'est pas parce que je suis né sur un continent, c'est pas parce que j'ai reçu telle éducation, que je suis appelé à rester là où je suis. Je suis appelé à gagner le ciel. C'est là ma nouvelle identité. Nous renversons, oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu. Mais il y a une deuxième catégorie de pensée. Paul y dit, les raisonnements, vous savez, ça va être associé à l'éducation, à la culture. Et les pensées, c'est ce qui va être associé à notre, au moi intérieur, ma façon de penser. Et Paul dit, pareil, il se fâche. Il ne dit pas, je vais peut-être faire une perquisition. Non. Il dit, nous faisons prisonnière toute pensée. Et c'est quoi comme pensée ? Ah oui, toutes ces pensées, toutes pensées pour l'amener à obéir à Christ. Donc Paul y dit que par la foi, en nouveauté de vie, nous sommes capables, par le Saint-Esprit qui nous anime, de lier ces pensées, ce qui viendrait nous amener à quoi ? À désobéir à Christ. Parce que nous savons que toute séduction, elle commence où ? Toute tentation, elle commence où ? Tout mensonge, il vient se semer où ? Et Paul, il dit, ça suffit. Ça suffit. Si l'Esprit qui a ressuscité Christ, habite en moi. Si je suis né de nouveau, si mon nom est inscrit dans le livre de vie, alors je suis le temple du Saint-Esprit, comme nous l'a rappelé Luc tout à l'heure. Alors je suis capable, par la puissance du Saint-Esprit qui habite en moi, de renverser ces raisonnements et de passer les menottes à toutes ces pensées qui m'amènent à désobéir si facilement. Paul le dira, le mal s'attache à moi. Le bien que je voudrais faire, je n'y arrive pas. Et tout le mal que je ne voudrais pas faire, eh bien, je le fais quand même. Qui me délivrera de ce corps de mort ? Paul, j'ai la réponse. Le Saint-Esprit qui habite en toi. Mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit qui habite en toi est suffisant. Il a ressuscité Christ. Alors combien à plus forte raison ? Il nous délivrera de ce corps de mort. Alléluia. Toutes ces choses-là du passé, elles sont passées. Gloire à Dieu. On part de ce principe, ensemble, que les fautes, elles sont passées, les fautes passées sont oubliées, la religiosité devient stérile et mes pensées sont régénérées. Amen. Mais maintenant, les bornes anciennes, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce qu'on a été question de, il a été question de ça. Vous savez, on dit que, et on aime repasser, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, on a raison d'aimer ce genre de verset. Mais c'est bien de le lire dans l'intégralité du chapitre. C'est mieux pour la compréhension. Ça, c'était le 2 Corinthiens 5, 17. Nous l'avons lu. Hein. Je ne sais pas si je l'ai affiché après. Thomas, oui. Si quelqu'un est en Christ, voilà, je vous le repasse. Mais la suite nous dit ceci. Versets 18 et 19. Et tout cela vient de Dieu. Toute cette vie nouvelle, elle vient de Dieu. On ne peut pas la fabriquer. Tout cela, ça vient de Dieu. Gloire à Dieu. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Le fait que si je suis né de nouveau, je suis né de nouveau pour partager la vie nouvelle. Et je dois être contagieux. Je dois être un véritable témoin, comme Acte 1, 8 nous le rappelle. La puissance du Saint-Esprit me rend capable d'accomplir le ministère de la réconciliation. Au verset 19, « En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même et ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Dieu veut tout changer. Dieu veut nous amener à une vie nouvelle, mais il ne veut jamais qu'on oublie que ça vient de lui. et qu'il nous a donné sa parole pour avoir autorité. S'il y a une nouveauté qui arrive sur Internet, même depuis cette estrade, qui ne serait pas en accord avec les Écritures, fausse doctrine. Tout ce dont nous avons besoin pour mener une vie nouvelle, nous l'avons dans la parole. La parole est esprit et vie. Seule, en la lisant comme un légaliste ou un religieux, elle tue, mais l'esprit vivifie. Le Saint-Esprit vient me révéler la parole. Et elle m'amène à dire, mais ça suffit en fait, j'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin de ces enseignements dernier cri avec où ça crie, ça court partout. Il n'y a pas besoin. La parole de Dieu est suffisante. Il y a des bornes qu'on ne déplace pas, mes frères et sœurs. La nouveauté, tu l'as dans la parole de Dieu. Tu l'as dans le secret de ta chambre. Là, quand tu plies le genou, tu fermes la porte aux activités, lorsque tu mets ton portable en hors ligne et que tu vas chercher la face de Dieu, on l'a là, la nouveauté de vie. On l'a là, la régénération de nos pensées. Amen. Parce que Dieu dit dans le secret de nos cœurs, comme il l'a dit par la bouche du prophète Ézéchiel, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. » Leur première borne de ce terrain, de ces bornes à pas déplacer. La première, c'est la grâce. Dieu l'a dit, tout cela vient de Dieu. Pourquoi chercher autre ? Pourquoi chercher auprès d'un autre prédicateur, chercher un autre, peut-être quelqu'un qui aurait mieux compris ? Mais c'est Dieu la source de la vie. C'est lui la source de la vie. On n'a rien besoin de plus. On a Dieu, on a la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela, au cas où on aurait oublié, cela ne vient pas de vous. Mais c'est quoi ? Lisez-le fort. Le don de Dieu. Qui est le don de Dieu ? Jésus-Christ. À la croix, il a tout accompli. Il a dit, ça suffit. Père, pardonne-leur, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Combien de fois Dieu nous le dit sur nos vies ? Ouh là là, il ne sait pas ce qu'il fait en ce moment. Il est à tâtons, il s'énerve pour rien. Il n'est pas bien là. N'oublie pas, je suis le don de Dieu. Je suis suffisant. À la croix, j'ai tout accompli. Le châtiment qui te donne la paix, Jésus te dit, il est tombé sur moi. C'est par mes meurtrissures que tu es guéri. Et toute autre promesse. La grâce de Dieu, elle est suffisante. Elle ne vient pas de nous. Nul ne peut être sauvé par les œuvres. Mais c'est par la foi en cette promesse extraordinaire qui est un Dieu qui nous a tellement aimés, qui nous a donné son Fils. Souvent, nous prenons la Sainte Cène et c'est bien pouvoir de prendre le temps des fois de considérer, de nous rappeler. Et Jésus l'a dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire que parfois, on a la mémoire courte. Régénérez vos pensées. Souvenez-vous de moi. Rappelez-vous la croix. Rappelez-vous votre conversion. Et n'oubliez jamais que le don de Dieu est suffisant. La deuxième borne qu'il ne faut jamais déplacer, qui découle de la grâce qui nous est offerte, c'est la repentance. Alors là, j'ai conscience que j'ai perdu peut-être la moitié de l'auditoire, j'espère pas. Mais la repentance, il va nous parler de pardon, il va nous parler de réconciliation, il va nous parler de « je suis mort à moi », de l'abandon, de la souffrance, « j'en veux plus de la repentance ». Pourtant, il n'y a aucun autre mot par lequel on peut mieux le traduire que le mot « repentance », en français en tout cas. Il y en a qui ont appelé ça des changements de vie. Un peu trop développement personnel à mon goût. Le mot « repentance », il est suffisant. Parce qu'il nous parle de mes œuvres mortes, mais en même temps de ce demi-tour extraordinaire, de cette conversion que je peux faire quand je reconnais que j'ai besoin de lui. Et vous l'avez lu avec moi, car tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Mon frère, ma sœur, peut-être tu es lassé, fatigué sur le chemin de la foi. Juste fais demi-tour. Demande pardon peut-être, en disant j'ai essayé par mes propres forces. J'ai essayé d'aider Dieu peut-être à Abraham et Sarah. Peut-être j'ai essayé d'aider Dieu en essayant de faire avancer les choses. Mais juste reviens dans la simplicité de la présence de Dieu. Viens juste demander pardon pour tes péchés. Pardon pour le zèle charnel que tu as déployé, peut-être même pour le service. On a besoin de passer par la repentance à chaque fois que nous nous sommes trompés. Et je vais vous confesser quelque chose. Je crois qu'il ne se passe pas un jour sans que je me trompe. Oui. Il ne se passe pas un jour sans que je demande pardon au Seigneur. Parfois pour une attitude déplacée. Parfois pour un raisonnement hâtif, un raccourci que j'aurais pris sur une personne. Chaque jour, je viens au trône de la grâce. Non pas pour me convertir de nouveau, mais pour réaliser, Jésus, j'ai besoin de toi. Alors oui, tout ce que j'ai dit juste avant que je ne dirai pas, pardon, réconciliation, vous le trouvez dans la parole de Dieu. Je vous laisse rechercher. Pourquoi ? Parce que Jésus nous dira dans Luc 5 que personne ne met du vin nouveau dans une vieille outre. On ne peut pas rafistoler, essayer d'aider Dieu par ma chair. J'ai besoin d'être régénéré corps, âme et esprit. Le vin nouveau est dans des outres neuves, sinon ça explose. La culpabilité, la pression du devoir chrétien vient nous amener à lâcher la main de Dieu. Nous avons besoin d'être régénérés. Nous avons besoin de considérer, Seigneur, viens transformer ma vie. Viens régénérer mon esprit, mon corps, mon âme. La troisième borne qu'on ne déplace jamais, c'est celle de la foi. Paul dit aux Corinthiens, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Qu'est-ce que tu vois devant tes yeux ? Qu'est-ce que tu constates dans le miroir chaque matin ? Arrête de regarder par tes yeux humains. On ne marche pas en tant qu'enfant de Dieu par la vue, mais par la foi. La foi nous montre la solution. Moïse et le peuple face à la mer Rouge, ils voyaient bien la mer Rouge. Ils voyaient bien la barrière naturelle. Mais par la foi, un chemin a été tracé. Je pourrais vous citer tous les exemples de la parole de Dieu où il est nécessaire de traiter tous les défis de notre vie par la foi. Tu ne trouves pas de travail ? Regarde par la foi. Tu es célibataire, endurci ? Regarde par la foi. Dieu l'a prévu, la bonne personne. Tes enfants sont au loin, tu as perdu les relations avec eux. Regarde par la foi. Dieu a dit qu'il ramènerait les enfants aux parents. C'est une promesse de l'Éternel. Et par la foi, nous croyons qu'elle a déjà accompli. Amen. Il y a tant de solutions qu'on trouverait plus facilement si on arrêtait de regarder par nos yeux humains, mais en regardant par la foi. Quatrième borne, et je termine. Je vais finir le tour du terrain. C'est l'obéissance. L'obéissance, Paul le dira, amène à la connaissance. On va plus proche de Dieu. L'obéissance nous rend agréable à Dieu. L'obéissance, je pourrais vous faire une étude sur l'obéissance, mais ce n'est pas l'enjeu ce matin. Samuel dira, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix ? Non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'écoute attentive, ça veut dire intentionnelle, une écoute active en enseignant, je t'écoute et je m'applique à, c'est le verbe shamma en hébreu, vous l'étudierez si vous voulez. Cette écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Pourtant, le sacrifice, c'est essentiel dans le culte hébraïque. C'est essentiel pour trouver Dieu. Et Dieu est en train de rectifier les priorités. Si vous m'obéissez, c'est à cette condition-là que vous serez agréable. Et vous serez mon peuple pour l'éternité. Et vos générations seront bénies. Cette promesse est toujours valable aujourd'hui. Je ne parle pas d'une obéissance religieuse avec une application de rite dominical. Je parle d'une vie d'intimité avec Dieu qui m'amène à l'obéissance. Quand Dieu dit, quand l'Esprit Saint me pousse à, j'obéis. Je vous raconte ce témoignage pour terminer, c'était à Écho. Je faisais partie de l'équipe des manifestations spirituelles. Et donc j'étais pris par pas mal de réunions, j'étais pas trop avec mon groupe de jeunes. D'ailleurs je les ai laissés en totale autonomie. Dieu les a bénis. Mais j'étais pas mal avec d'autres pasteurs et puis errant dans le congrès. 6000 jeunes, ça en fait des jeunes. En plus on les connaît pas. C'est compliqué. Mais à un moment, première réunion, on est en train de louer le Seigneur, on prie. Mais j'ouvre mes yeux pour regarder cette jeunesse qui levait les mains. Et je vois un jeune allez, 20 rangées plus bas. Ça fait, hein, dans un zénith, c'est énorme. Hein, il y a peut-être 200 personnes entre nous. Je le vois de dos avec une capuche blanche. Et là, dans mon cœur, le Saint-Esprit me dit, prie, prie pour lui maintenant. Et je me mets à intercéder pour lui. Et alors que je prie, le Seigneur me dit, tu iras le retrouver. Excusez-moi, hein. Je ne mets pas en doute la puissance de Dieu, mais mes capacités à reconnaître le monsieur. Là, très fortement, j'ai remis en cause ça. Je dis, Seigneur, crée un rendez-vous, parce que là, au milieu des 6000, je ne vais jamais le retrouver, ce garçon. On finit la réunion. Je sors du zénith, et il y a un jeune homme qui est contre un mur, la tête baissée. Et le Seigneur me dit, tu vois, je te l'ai montré. Vous savez ce que j'ai fait ? J'ai continué ma route tout droit, je ne suis même pas allé lui parler. Désobéissance, numéro 1. Repris dans mon cœur, le Saint-Esprit m'attriste, et je dis pardon Seigneur, j'aurais dû t'obéir à l'instant où tu m'as parlé. Seigneur, si j'ose, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, demain matin tu me le remontres. J'entre dans la chapelle, 200 ou 300 jeunes chantent le Seigneur, enfin, c'était plein, je ne me rappelle plus le nombre, et là dans mon cœur, j'ai une recherche intentionnelle. Je dis, il faut que je trouve ce garçon. Je tourne mes yeux, il est contre le mur là, à côté de moi, à 2 mètres. Alléluia, Seigneur, tu es bon. Vous savez ce que j'ai fait ? J'ai parlé avec d'autres pasteurs et je l'ai perdu de vue. Désobéissance numéro 2. J'avais honte de moi. Mais personne ne le savait. Bon, maintenant, vous êtes tous au courant. Mais j'avais honte de moi. Je dis, mais attends, Seigneur, je te sers, tu parles à mon cœur, je suis même lent à t'obéir et tu uses de patience envers moi. Et je ne t'obéis toujours pas. Ça vous rappelle rien, vous, hein ? Merci de vous associer à moi. Et là, dans mon cœur, je m'humilie, mais je pleure tout ce que je peux. Je dis, Seigneur, je ne suis pas digne. Mais ça dépasse moi, ma vie, c'est pour sa vie. Si tu as prévu qu'il parle à quelqu'un d'autre, bah fais-le, Seigneur. Mais Seigneur, si tu voulais te servir de moi, alors j'ose une troisième fois te demander de me le remontrer, de créer un autre rendez-vous. Ça, c'était le matin. Il s'est passé toute la journée jusqu'à la réunion du soir. Et là, on est tous, les 6000 jeunes vont au zénith, un couloir avec, on est par l'eau de 200. Enfin, imaginez hein, la foule. Et là, je le vois au bout du couloir, sur la gauche, et la tête chercheuse. Ceux qui étaient avec moi, je dis salut. Et là, je dis, Seigneur, je t'obéis, il n'y a personne qui me parle. Je vais voir ce garçon. Je vais lui parler. Je lui dis, écoute, on ne se connaît pas. Je suis pasteur. Et depuis 2 jours, Dieu m'envoie pour te parler. Il me dit, je sais. Il y a quelqu'un qui est venu 3 minutes avant que tu arrives, qui m'a dit, quelqu'un va venir te parler, il vient de la part de Dieu. Et là, on n'emmène pas large. Là, je me dis, mais qui je suis, Seigneur ? Mais personne. Tout vient de Dieu. Ce jeune homme, il avait besoin qu'on prie pour lui. Mais il ne pouvait pas s'ouvrir. C'était un blessé de la vie. Il avait touché à des choses ignobles. Touché aux choses spirituelles, ignobles. Mais ce garçon-là, on a pu avoir un entretien. Et le Saint-Esprit est venu. Il a libéré ce garçon. Il est né de nouveau. Et il est parti avec la paix de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un faible outil entre ses mains, qui a tardé à obéir, mais qui a obéi quand même vers la fin. Moi, je vous invite à éviter d'obéir à la troisième parole de Dieu, mais à obéir dès la première. Ça évite de se tracasser, ça évite des souffrances, ça évite des préoccupations. Il n'y a pas plus grande joie que d'obéir à Christ. Amen, frères. On peut prier ensemble. La vie nouvelle ne se vit que dans le cadre de la parole de Dieu, animée par le Saint-Esprit. Vous dites Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Paul dira aux Éphésiens dans Éphésiens 5, 18, « Soyez continuellement remplis par le Saint-Esprit. » Tout le temps. Vivez cette vie nouvelle par l'assistance du Saint-Esprit. Et je ne sais pas si Luc, on peut faire un chant pour accompagner ces instants. J'avais vraiment à cœur, je ne vais pas vous faire venir sur le devant, parce qu'en fait, Dieu, quand il parle là où on est, dans la situation où on est. Et Dieu vient frapper à la porte de vos cœurs, de mon cœur. Si on est d'accord qu'on ne va pas bouger les bornes anciennes et que ce sont des choses immuables, on a quand même besoin de vivre ce renouveau du Saint-Esprit. Et je crois que vous et moi, on a besoin de cela ce matin. Je vais parler pour moi. J'ai besoin de cela ce matin. J'ai besoin que le Saint-Esprit refasse les niveaux dans ma vie. Que je puisse être prompt à dépendre de sa grâce. Que je puisse marcher par la foi. Que je puisse dépendre de la repentance. Et que je puisse être et vivre soumis dans l'obéissance. Avez-vous besoin de cela, mes frères et sœurs ? J'ai besoin de cela. Alors si vous n'en avez pas besoin, priez pour moi. Mais j'aimerais qu'on puisse juste là vivre un temps de visitation de l'Esprit de Dieu. Et là, si tu as besoin, j'aimerais t'inviter à te tenir debout devant ta chaise, simplement. On est là. On est là devant Dieu. Peut-être tu vas te lever parce que tu n'as pas besoin d'être renouvelé. Tu as besoin de découvrir Jésus-Christ. Et dans ce même appel, j'aimerais que celui qui ne connaît pas Jésus, celui qui n'est pas né de nouveau, puisse naître de nouveau ce matin, en demandant pardon pour ses péchés. Que tu sois jeune, moins jeune, que tu viennes de loin ou de très près, que ça soit ta culture ou pas, là on est tous égaux devant Dieu, qui ne fait pas de favoritisme, qui ne regarde pas à l'apparence, qui ne regarde pas au bulletin de paye, qui ne regarde pas au contexte familial, qui regarde au cœur. Le Saint-Esprit frappe à la porte de ton cœur ce matin. Il voudrait renouveler ton esprit, ton intelligence. Il voudrait t'amener à la repentance. Les ados, les enfants, ce message, il est aussi pour vous ce matin. Que vous puissiez dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, je te donne ma vie. Jésus, j'ai besoin que tu demeures dans ma vie. Que ma vie, mon corps, soit le temple du Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, tu viens. Et par ton esprit maintenant, alors que tu vois les âmes qui se tiennent debout devant toi, tu viens les remplir comme des outres nouvelles. Seigneur, comme le vin, viens être à mettre dans des outres neuves. Tu vois nos vies, nous désirons qu'elles soient renouvelées, que nous soyons renouvelés dans nos pensées, dans notre âme, dans nos corps. Tu viens donner la guérison à celui qui est malade. Tu viens baptiser de l'esprit, renouveler de l'esprit celui qui est sec, fatigué, sur le bord du chemin. Ô Seigneur, tu frappes à la porte de celui qui est étranger de la grâce. Et ce matin, tu le sauves. Nous voici dans ta présence. Qu'importe les besoins, qu'importe ce dont nous avons besoin, qu'importe ce que nous-mêmes nous voudrions demander. Dieu, tu nous assistes dans nos faiblesses. Nous voici. Nous voici. Chante, mon frère, ma sœur. Abandonne la timidité. Abandonne les raisonnements qui te laissent la bouche fermée. Dis, me voici, Seigneur, remplis ma vie.